Alors, déjà que je sache un peu, qui n'a jamais entendu parler de la société des auteurs de jeux ? Vous savez pas trop ce que c'est ? Ok, il y en a. C'était pour savoir si... Bon. Donc, je vais faire une présentation rapide de l'association, parce que, mine de rien, c'est un petit peu pour ça que je suis là, à la base. Donc, la société des auteurs de jeux, c'est une association qui a été créée l'année dernière. Enfin, cette année, en fait, je dis des conneries, en début d'année. Qui est censée regrouper les auteurs de jeux de société francophones, d'accord ? Et qui a vocation à, donc, d'abord les rassembler, en s'appuyant sur les collectifs d'auteurs locaux un peu partout en France dont on vient de parler, et aller de façon à ce qu'ils se rassemblent déjà sous l'égide de la société des auteurs de jeux de façon un peu abstraite et de façon très concrète justement sur le terrain, voilà, de par les collectifs. Ensuite, c'est défendre les droits des auteurs, c'est-à-dire surtout sur le statut fiscal auprès des AGSA, etc. D'accord. Et puis après, bah, c'est juste le statut de l'auteur en général en tant qu'auteur d'œuvre de l'esprit. C'est voilà, mettre en avant le travail, le métier d'auteur de jeux de société, etc. La défense des droits de l'auteur aussi par rapport parfois dans le processus éditorial avec l'éditeur, etc. Même si on voit pas ça comme un conflit, c'est des partenariats, il y a des négociations, etc. Donc toutes ces questions-là, la SAGE essaye d'en parler. On est à destination à la fois des auteurs qui veulent se professionnaliser ou qui sont déjà là, et ceux qui ont même rien publié. Voilà, enfin, on essaie de s'adresser à tout le monde, parce que même si t'as un produit dans ton placard, si t'as créé un jeu, bah, pour moi, t'es auteur de jeu. Pour nous, t'es auteur de jeu, de toute façon. Publié ou non, c'est ça que je veux dire. À mon avis, la différence est importante. Parce qu'on aurait tendance à croire que c'est destiné que à ceux qui ont, moi, j'ai pas signé de jeu, moi, je compte pas, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça qui compte. Voilà.
Au contraire, c'est ceux qui ont le plus de questions.
Alors, c'est ceux qui ont le plus de questions, mais après, nous, on veut aussi apporter des réponses à ceux qui n'ont plus ces questions-là à poser.
C'est surtout qu'ils n'ont pas les mêmes questions.
Quoi. C'est ça, exactement. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, la société des auteurs de jeux, c'est ça. D'accord ? Donc, c'est une association qui est, qui a la, j'allais dire, pas très active, si, mais c'est-à-dire que on n'a pas de stand sur les festivals, on n'a pas tout ça, parce que notre activité, elle se fait en sous-marin. C'est des trucs pas très visibles où on va essayer de contacter les administrations. On va essayer de faire des actions. On va faire la consultation. On est en train de mettre en place une consultation des auteurs de jeux. On va demander à tous les auteurs de jeux, encore une fois, publiés ou non, de nous indiquer est-ce que vous avez eu des jeux publiés. Alors, si tu n'as pas de jeux publiés, tu vas être non, puis ce sera vite fait. Hein. Et si tu en as, et bien dans ces cas-là, ce sera nous indiquer combien tu as d'exemplaires vendus, chez qui, à quel pourcentage, etc. Tout sera récolté de manière anonyme, et les résultats sont de manière anonyme, puisqu'on va après traiter les données pour produire un rapport, ce qui se fait pareil par la Société des gens de lettres ou la Société des auteurs de bande dessinée, juste produire un état de l'art de la profession, entre guillemets. Et c'est pour ça que c'est important que les auteurs qui, eux, n'ont jamais publié, répondent aussi en disant moi j'ai rien, salut. Parce que dans ce cas-là, ça nous permettra, par exemple, juste de faire un camembert en disant sur tous les gens qui créent des sociétés en France, seulement 10% sont publiés. Voilà. Donc c'est important que tout le monde réponde le moment où on le fera. Bon, on est en train de préparer ça, c'est un gros boulot à la fois de collecte des données, parce qu'il faut le faire de manière anonyme, il faudra demander à une tierce personne de le faire. On est en train d'étudier, on aimerait bien que ce soit le Centre National du Jeu, par exemple, qui le fasse, parce qu'ils ont toute la légitimité pour le faire, etc. Et après, il y aura le traitement des données aussi, qui, pareil, qui sera fait par quelqu'un d'autre, de façon à ce que tout soit super anonyme. Comme ça, personne n'a de problème à balancer ses chiffres, etc., sur Internet. Voilà, donc ça, c'est une des actions qu'on va faire. Là, on est en train de préparer un petit PDF sur déclarer ses droits d'auteur pour les nuls. Et en fait, c'est pour tout le monde, parce que on s'aperçoit que tous, on ne sait pas trop comment faire, et c'est normal, puisqu'il n'y a pas de bonne façon de le faire. Un des gros problèmes actuels, c'est qu'on n'a pas de statut légal, officiel, on n'a pas de case dans laquelle on rentre. Okay ? Donc, c'est-à-dire que les éditeurs nous font des contrats qui sont typiquement des contrats de propriété littéraire, de propriété intellectuelle, littéraire et artistique. Et pourtant, il est indiqué nulle part aux AGSA qu'on est éligible à pouvoir cotiser, à s'affilier chez eux. Donc, ce qu'on voudrait changer, c'est déjà qu'à l'AGSA, on ait notre case. C'est-à-dire qu'on dise, l'AGSA, oui, auteur de jeux de société, vous pouvez venir cotiser chez nous. Dans les faits, c'est déjà ce qui se passe. Puisque, alors, c'est relativement récent, mais maintenant la GSA va même chercher certains auteurs, leur écrit des courriers en disant dis donc, il faut venir déclarer vos droits d'auteur chez nous. D'accord ? Et nous, moi entre autres, je cotise aux AGSA, d'autres auteurs cotisent aux AGSA et on ne leur dit pas non. Donc dans les faits, c'est ce qui se passe. On veut officialiser ce statut-là. D'accord ? Voilà. Donc c'est ça. Je me perds un petit peu. Je crois que pour présenter l'association.
La GSA, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux.
Alors, la GSA, c'est l'organisme de. qui permet aux auteurs de payer des cotisations sociales sur leurs revenus. En France, c'est un principe de, enfin, c'est un peu mutualiste. C'est-à-dire que chaque fois que tu gagnes de l'argent, il faut que tu payes des cotisations sociales pour la retraite, pour la formation professionnelle, pour le chômage, etc. Fonctionne, on paye pour les autres et les autres payent pour toi. C'est le principe, c'est la solidarité. Donc les droits d'auteur n'y échappent pas. C'est-à-dire que quand tu touches des droits d'auteur, il faut que tu payes des cotisations sociales. Quand, pour les salariés, eux, ils payent des cotisations sociales, mais c'est la différence entre salaire brut et salaire net, donc ils ne le voient pas. D'accord ? C'est payé avant qu'ils aient quoi ? Ils n'ont pas à faire l'action de le payer. Nous, les auteurs, il faut qu'on le fasse. D'accord ? Il faut qu'on se déclare aux AGSA pour le faire. Donc il y a différents organismes pour collecter ces cotisations sociales, l'URSSAF, etc. Nous, c'est l'AGSA, qui a été créé exprès pour les auteurs de photos, les auteurs de romans, les auteurs de trucs vidéo, etc., etc., les sculpteurs, etc. Les auteurs graphiques et plastiques ont la maison des artistes, mais les deux institutions fonctionnent à peu près de la même façon, c'est juste une histoire de chapelle, on s'en fiche. Voilà. Donc en gros, c'est ça l'AGSA. Voilà. Et donc, en quoi c'est important qu'on cotise aux AGSA ? Parce que ça nous ferait reconnaître de fait, dans la loi, que les auteurs de jeux de société sont des auteurs d'œuvres de l'esprit, tout simplement. Et ça, c'est juste énorme, les implications que ça a. C'est-à-dire que jusqu'à présent, au niveau de la loi, il y avait un député qui avait porté la question des auteurs de jeux de société à l'Assemblée il y a un certain temps, et il s'était fait débouter en disant « Ben non, les auteurs de jeux de société, je résume un peu, hein, mais c'est comme des rédacteurs de manuels de machines à laver. » C'est-à-dire que vous écrivez un livret qui indique comment faire fonctionner ce qui est dans la boîte. Donc il n'y a rien de personnel original et... Salut, bonjour. Personnel original dans ce que vous écrivez. Donc non, vous n'êtes pas auteur d'œuvre de l'esprit, donc non, vous... Voilà, pas de droit d'auteur, pas d'AGSA, rien. Et il se trouve que les choses changent, évoluent, et de fait, maintenant, c'est ça, puisque les éditeurs nous font des contrats qui sont soumis à la propriété littéraire et artistique, que l'AGSA accepte qu'on y paye nos droits d'auteur. Donc les choses ont changé d'elles-mêmes, maintenant il faut que ce soit officiel. Voilà. Salut, enchanté.
Salut Mathieu, désolé.
Je t'en prie, on n'est pas aux pièces. Ok. Voilà, donc ça c'était pour présenter rapidement la Société des auteurs de jeux. Pourquoi on fait ce genre de réunion ? Parce que moi ce qui m'intéresse c'est que sur tous ces festivals là où il y a des auteurs comme ça, vous n'avez pas forcément entendu parler de ce qu'on fait. Ça fait un peu prosélyte, etc. Genre on veut que vous veniez dans notre chapelle, mais c'est important. C'est, ouais, c'est, non mais c'est important qu'on essaie de vous montrer qu'on existe, parce que plus il y a d'adhérents à la Société des auteurs de jeux, plus on aura de poids auprès des institutions. Ça ne demande pas une participation active. En plus, je veux dire, on a posé une cotisation à la base qui est de 15 euros. C'est accessible et ça vous, et c'est même pas renouvelé chaque année. C'est pour 15 euros, vous êtes membre à vie de l'association. Si tu veux, le principe, c'est que vraiment, c'est vous adhérez pour nous soutenir. Après, nous, bah, si vous avez plus de bonne volonté enfin, à accorder, etc., on est preneur de toutes les bonnes volontés. Mais par défaut, on a conscience qu'on a tous, enfin la plupart, ont un métier à côté, plus le business de leur jeu, parfois une famille, etc., machin, et que c'est pas évident. Donc on ne monte pas plus que ça à la base, et après on fait le boulot. Mais donc, si vous pouvez adhérer, je ne répéterai pas toute la réunion, mais adhérer, qui disait, voilà.
Hein, voilà, engagez-vous. C'est très simple.
Ah ouais,
oui, voilà. Alors tout se fait sur le site internet.
Il y a
un
forum
qui s'appelle Société des auteurs de jeux. Bon, voilà. Non, c'est tout simple. Hein. J'ai pas pris les flyers parce que je venais en personne. Je me suis dit ça sert à rien d'imprimer du papier alors que je viens là et qu'on en parle. Il y a un site, il y a un formulaire à remplir, ensuite il y a un lien PayPal, on prend 15 euros, c'est bon, c'est fait. Quoi. Ça prend 5 minutes à tout casser, c'est pas grand chose. Et après, l'important, c'est que du coup, bah, vous allez nous aider juste parce que vous avez adhéré, et puis c'est tout, quoi. C'est déjà pas mal.
De neige et ça va grossir.
Mais c'est pour qu'on ait le plus de monde possible, ouais. Pour que au fil du temps, on soit 200, 300. Là, on a une réunion avec la Société des auteurs de jeux allemands à Essen, c'était très constructif, c'était chouette. Et eux, ils sont par exemple, ils sont 450 maintenant dans l'association. Ça fait 25 ans qu'ils existent, mais ils fonctionnent différemment de nous, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une adhésion qui est plus élevée, et du coup, ils peuvent se permettre, par exemple, ils ont un salarié à mi-temps à l'année qui fait du lobbying et toutes les démarches administratives pour eux. Ce que nous, actuellement, on ne peut clairement pas se permettre de faire, mais c'est pas grave, on fonctionne autrement, on a choisi, enfin voilà, un temps, on n'a pas, eux, ils sont donnés une vocation internationale, nous, ça s'est fait comme ça, on est resté francophone, ça veut dire qu'on a aussi les Belges, les Suisses, les Canadiens, etc.
Internationale, j'ai adhéré pendant des années, j'ai fini par abandonner quand j'en recevais des trucs qui étaient qu'en allemand. Et auquel je ne comprenais rien.
Ouais. Bah, après, c'est ce qu'ils indiquent. Apparemment, il y a une branche italienne de la Société des auteurs de jeux.
Ouais, mais à l'époque, il y avait des Américains, ils essayent, ils n'ont pas à sortir de l'Allemagne.
Il y a l'Italien. Alors, c'est Israël Rosary.
Il y a un tirage de sort, c'est ça?
Il y a gagné le tirage de sort.
Ça va, c'est pas tout le temps. Voilà,
donc après, moi, alors, ces réunions-là, pour que, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir. Est-ce que vous voulez savoir plus de choses sur l'association? Et si oui ou sinon, enfin, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous voulez qu'on papote de ce qu'on a en chantier, voilà, de ce qui vous intéresserait de voir dans l'association, les questionnements que vous avez, etc., etc., quel que soit votre niveau, professionnel, débutant, voilà. Ça, et on va aussi produire, parce que la consultation ne suffira pas. Moi, j'ai l'intention de faire un espèce de, justement, de rapport, enfin, pas un rapport, mais un PDF, avec un peu ce que tu dis en disant les auteurs de jeux, ça représente tant, et le marché d'une société, c'est plus ce qu'on pense, ma bonne dame, ça représente tant de millions de chiffres d'affaires, etc., machin. Il va nous falloir ce type de document pour aller démarcher. À la base, on voulait attendre d'avoir fini la consultation des auteurs de jeux, pour pouvoir aller démarcher les institutions. Je pense qu'on va pas faire ça comme ça, parce que la consultation va nous prendre un certain temps en traitement, etc., et je pense qu'il faut attaquer beaucoup plus tôt que ça. Parce que tout ça, ça va prendre longtemps. On va se faire perdre comme Astérix dans les méandres de la maison, le formulaire 65B et avoir pas rendez-vous avec la bonne personne. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer nos démarches très tôt. Là, on a 150 adhérents. On a commencé, on a eu une centaine d'adhérents dès le premier mois. C'est super. On a eu beaucoup de soutien tout de suite. Et là, depuis, on a une cinquantaine seulement. Ça s'est évidemment ralenti. C'est normal. Faut que ça continue de grossir petit à petit. Mais on va avoir du mal à ce que ça grossisse énormément. Donc là, ça sert à rien d'attendre qu'on soit à 300 ou 400. Il faut y aller maintenant, à mon avis. Donc, je vais essayer de produire ce document-là. Et on va essayer de le faire. Et puis ensuite, on va commencer à entamer des démarches auprès de la GSA, du ministère de la Culture, etc. Tout de suite, en fait.
La consultation dont tu parlais tout à l'heure, elle est déjà entamée?
Alors, on a entamé le travail de préparation du questionnaire. Oui, entre nous, on est plusieurs membres au CA, on est 7. Et j'ai fait un premier jet, les autres ont fait leur retour. Il y en a un qui a déjà essayé de la faire pour lui-même. Ça lui a pris à peu près 10-15 minutes par jeu. Mais c'est Laurent Escoffier, il avait 20 ans qu'il fait ça. Alors, il a passé plus d'une heure. C'est pour lui.
La plupart, notamment, j'ai beaucoup de jeux, je pense par exemple Citadel, j'ai aucune idée des ventes, puisque j'ai des contrats avec un éditeur qui après vend des licences et m'en verse la moitié de la licence. Je reçois des trucs, il n'y a pas marqué les tirages, j'en ai aucune idée. Je dis au pif.
Voilà, et au pire on se contentera, du au pif. Ouais, c'est au mieux, quoi, voilà, mais.
Surtout que j'ai jamais cherché à savoir combien j'en avais.
Oui, mais moi je m'en préoccupe pas forcément beaucoup non plus. Mais là pour le coup on va demander de faire ce travail-là ponctuellement une seule fois.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il faut. Ça va être chiant pour tout le monde, hein, mais même pour moi. Mais je veux dire le truc c'est qu'on va être obligé de rentrer un peu de ressortir les vieux papiers et tout. Je veux dire, c'est obligatoire. Mais je comprends qu'en plus, des fois les relevés des éditeurs sont assez opaques. Les licences, normalement, c'est accordé en plus sur une certaine quantité de boîtes. Mais c'est vrai que les éditeurs ne nous transmettent pas cette quantité, forcément.
Ça dépend, moi. Non, en général, quand je signe avec un éditeur et qu'il a une licence, qu'il vend une sous-licence pour d'autres pays, c'est pas pour une quantité de boîtes, c'est j'ai un pourcentage, j'ai 40 ou j'ai 50% de ce qu'il gagne. Voilà. Donc je reçois un papier disant, ben voilà, on a touché 20 000 euros, il y en a 10 000 pour toi. Après, je sais pas pourquoi ils ont touché 20 000 euros, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'il y en a 10 000 pour moi.
Le pourcentage du chiffre d'affaires aussi, je suis d'accord. Ah ouais. J'ai pas le nombre d'exemplaires en fait. Le nombre d'exemplaires, je déduis du montant que.
Ah, ça, par contre, que je touche. Le nombre d'exemplaires sur le rôle, mais
normalement. D'exemplaires, je l'ai pas.
Bah, tu
devrais lui demander. C'est
normal, mais tu devrais. Enfin, c'est normal. Oui, mais tu devrais lui demander. Ou alors, en fait, si ça t'intéresse pas. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Si ça t'intéresse pas, je comprends, pas de soucis, on s'en fout.
Après, combien je touche par boîte, donc en déduction j'arrive à savoir à peu près combien ça représente.
Moi je dis tu devrais, mais finalement c'est pas une obligation. Moi ça m'intéresse de le savoir, parce que t'es content de savoir si t'as plutôt 2000, 5000, 10 000 ou 50 000 de ton jeu qui se sont vendus. C'est intéressant, voilà. Après, les relations avec l'éditeur, après c'est très très compliqué, on peut pas faire de généralité parce que toutes les relations, dans chaque relation c'est différent, dans chaque processus éditorial. Moi, tous les éditeurs avec qui j'ai travaillé, ça a toujours été très différent. Donc c'est difficile de mettre des généralités sur les trucs à faire et les trucs à ne pas faire. C'est très difficile. Là, par exemple, on va essayer avec... Putain, il faut chier. On va essayer dans le PDF de déclarer les droits d'auteur pour les nuls, là. Il y aura une partie « Parler à l'éditeur », murmurer à l'oreille des chevaux. C'est pareil. Enfin, pardon l'éditeur. En gros, c'est... Comment discuter avec ton éditeur s'il est pas chaud pour t'inscrire au SAGESA parce que t'es au précompte, lui expliquer que c'est dans son intérêt, etc. machin. Voilà, il y a des choses quand même. Voilà, il y a ce genre de truc. Après, Moi, il y a quelque chose qui... c'est un peu éloigné du sujet. Je ne peux pas en parler maintenant. En fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez savoir?
Moi, je voudrais...
Ouais.
Dire une chose, c'est que j'ai quand même l'impression, parce que tu dis, d'une part, les AGSA commencent à venir nous chercher, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les éditeurs, j'ai l'impression que j'ai eu récemment les mecs de Matago, ils commencent à essayer de savoir comment chacun d'entre nous déclare les trucs pour essayer de savoir si tout est en règle, parce que quelque part, si on fait des conneries, ça peut leur retomber dessus aussi. Donc les éditeurs sont aussi en train, et je crois que Diego, c'est pareil, ils disent, bon alors, hein, comment tu fais exactement, comment tu déclares. Ils essayent de mettre les choses au clair. Donc on est vraiment dans un moment où, je pense, quelque part, j'ai presque l'impression que les choses sont en train de s'arranger toutes seules. Quoi.
Oui, oui, moi aussi, c'est bien, c'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on remarque, on a un comptable qui nous aide à rédiger le PDF déclaré les auteurs pour la nuit. Il se trouve que c'est aussi le comptable de la VEJ, de l'Union des éditeurs de jeux. Donc c'est génial parce que lui, il est en train de se renseigner, de découvrir des trucs, sachant que les éditeurs font pas ce qu'ils font, font pas ce qu'il faut. Nous, on a demandé des retours d'auteurs sur savoir comment vous déclarez vos revenus de droits d'auteur. Bon, on a eu seulement 10 réponses sur 150 adhérents et 700 membres du groupe Facebook.
Oui, parce que c'est en train de changer pour moi, donc c'est un peu au bordel.
Pas de soucis. Voilà, après, moi, je suis... C'est pas grave, mais voilà. Et les 10 réponses qu'on a eues, c'était 10 réponses quasiment différentes. Donc je veux dire, c'est n'importe quoi. Et au niveau des...
Ma réponse, elle tient en une phrase, c'est je fais ce que me dit mon comptable.
Oui, mais après, voilà.
Et après, je sais même pas exactement ce que je fais. Je signe comme on me dit de signer.
Ok.
Une grosse maison, ton comptable. Une grande maison, ton comptable.
Alors après, oui, il y a des... Ouais. Et donc, à l'Union des éditeurs de jeux, les éditeurs sont en fait, quelque part, aussi à l'ouest que nous. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Les types, c'est des gens très sérieux, c'est des entrepreneurs, etc. Mais la moitié font pas les choses, entre guillemets, comme il faut non plus, au niveau de leur relation avec les auteurs. Et c'est ce que tu dis, Bruno, au niveau d'Yellow, etc., machin, c'est très récent, oui. Et c'est pas les seuls. Et tous, ils sont en train de faire « Attends, merde, qu'est-ce qui se passe là ? Comment ça, il y a de la TVA payée sur les droits d'auteur ?» Attends, une note de frais d'auteur là, qu'est-ce que c'est que ça? Et tous sont en train de. Et donc effectivement, c'est en train de se cristalliser, de se structurer, de se professionnaliser, entre guillemets, tout seul. Mais il faut il en faut qu'ils disent comment on fait, quoi, qu'ils fassent le travail de recherche. Donc, on est en train de faire ça. L'Union des éditeurs de jeux sont en train de produire un espèce de livre blanc, un truc de bonne pratique sur les contrats. À destination des membres de la BEJ. Sachant, bon voilà, nous, c'est pas une obligation, parce qu'évidemment, il y en a plein qui veulent pas qu'on leur fasse la main, et à juste titre, sur les contrats qu'ils veulent pratiquer. Mais la UEJ va dire, voilà, nous, c'est un livre de bonne pratique, voilà les clauses qu'il faut apparaître dans le contrat, voilà
celles
qui
sont pas.
C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire.
Ouais.
Bon, on n'est pas associé au processus en amont, je regrette un petit peu, mais on verra, j'espère qu'ils vont nous le montrer avant de le rendre public, parce que ce serait dommage que. Parce qu'on gueulera pas, mais ce serait dommage qu'on se vexe. Bref, bon, c'est pas grave.
Ouais, que ce soit pas la norme et que c'est de bonne à loi ou qu'au minimum il y a ce genre de conditions. Quoi.
Non, moi j'aurais bien aimé que la BEJ nous le montre avant de le publier. On verra, ouais. J'espère qu'ils le feront. C'est BEJ si tu m'entends. On a communiqué avec eux, mais on est en relation avec Régis, Alain et tout ça. Mais c'est... Et ils font leurs choses dans leur coin et déjà c'est pas facile entre eux de s'entendre. Et c'est déjà bien que cette initiative se fasse. Donc c'est super. Nous de ce côté-là, on a le PDF de déclaré droit d'auteur qui va, j'espère, structurer un peu la façon dont tous les plus jeunes, les plus vieux auteurs, ça dépend vraiment. Parce que chaque cas est différent. Il y a les fonctionnaires qui sont profs à côté, il y a les travailleurs indépendants comme moi qui sont déjà graphistes ou travailleurs indépendants à côté, il y a ceux qui sont salariés. Il y a entre ceux qui touchent 5, 10, 15 ou 50 000 euros à l'année, c'est très différent. Ils n'ont pas le même intérêt à déclarer soit en traitement et salaire, soit en BNC, soit carrément à créer une société pour se faire comme Roberto Fraga ou Bruno Catala. Les intérêts sont vraiment très différents. Donc, on va essayer de l'expliquer le plus simplement possible, mais il n'y a pas de secret. Il faudra arriver à le comprendre pour savoir quelle est la façon de déclarer la plus intéressante pour soi. Voilà. En gros, c'est ça, quoi.
Ouais, il y a beaucoup de cas par cas, quoi.
C'est ça, ouais.
Le degré de vente.
Bah, c'est un système.
Il y a aussi qu'il faut choisir entre la plus intéressante et la plus simple. Hein.
C'est ça, ouais, exactement.
Toujours, moi, ce que je fais, c'est certainement pas le plus intéressant dans le point de vue financier, mais j'ai pas envie de me casser la tête.
Moi, c'est marrant parce que dans le PDF, j'essaie d'évaluer ça et de mettre un critère aussi de paperasso. Parce que ça, j'ai bien conscience que, et moi le premier, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, au niveau des démarches, par exemple, la comptabilité à tenir toute l'année, les garder ses factures, les conneries et tout, et c'est un truc que des tas de gens ont pas envie de faire. Donc, la tenue d'un journal comptable, elle est plus ou moins stricte si on déclare en traitement et salaire avec un abattement forfaitaire, ou si on est en BNC, ou si on est en société, etc. Machin. L'implication dans son quotidien n'est pas du tout la même. et tout le monde n'a pas envie de se prendre la tête. Quand c'est un hobby, que tu as sorti un jeu dans l'année, tu es déjà content, c'est sans doute le seul qui sortira dans ta vie. Tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu as gardé tes factures pour savoir, enfin voilà, tu t'en fous quoi. Voilà.
Ça, tu disais que les éditeurs n'étaient pas forcément au courant, mais que ça allait venir, c'est ça ?
Alors, bon, ça nous concerne, nous, la façon...
conseils-là de...
Non, parce que ça les concerne pas. Ça, c'est un travail que nous, on est censé savoir ce qui est le mieux pour nous.
D'accord.
Les éditeurs peuvent pas nous conseiller là-dessus. Là où les éditeurs sont pas forcément au courant, c'est sur leur partie. C'est-à-dire la TVA qui a payé ou pas, enfin, ça dépend, parce que c'est un peu compliqué, je vais pas rentrer dans le détail, mais... par défaut, la TVA, elle est de 10% sur les droits d'auteur. Et elle est, par défaut, elle devrait être retenue à la source par les éditeurs. C'est vu que sur tous les droits d'auteur qui te filent, en fait, il faudrait qu'ils payent en plus, surtout pas sur tes droits d'auteur, mais il faudrait qu'ils payent en plus 10%. Ils la récupèrent tout de suite, hein. Donc ils ne les payent pas en plus. Elle est directe, c'est un mécanisme de, comment ils appellent ça, de retenue, c'est pas grave, voilà. Mais en gros, il faut qu'ils le fassent, quoi. Et si c'est pas le cas, par contre, c'est à toi de la payer, mais il y a la TVA sur les droits d'auteur. Personne ne le sait. Moi, jusqu'à 3 semaines, je l'ignorais, quoi. Ben voilà.
Déclaration de TVA sur les droits d'auteur que je touche de... Alors, curieusement d'ailleurs, pas du reste du monde, mais que je touche de l'Europe, pas de France, je fais une déclaration en fait sans rien payer. Mais on m'a dit que si je faisais pas la déclaration, je risquais d'avoir une amende. Bon, ben, je fais la déclaration. Et en fait, c'est simplement, je vais sur le site des douanes et je déclare déclaration européenne, service, TVA, machin, j'ai touché tant. Et après, on m'a jamais rien réclamé. Non, mais il y a des formalités à la con, quoi.
Ouais, il y a des formalités.
Ouais, c'est ça. Mais je vois dans tous les retours d'auteurs qu'on a eu, il y a vraiment des mecs qui font n'importe quoi, mais parce qu'ils savent pas. Et c'est normal. Et même moi, je m'aperçois en découvrant et en faisant des recherches qu'il y a des trucs, je suis pas dans les clous. Par exemple, tous les droits d'auteur que je touche d'éditeurs étrangers, moi, je suis en régime spécial micro-BNC, j'ai pas le droit de les déclarer en micro-BNC, je le savais pas. On apprend des trucs. Bah ouais.
Mais moi non plus, je savais pas. Alors du coup, je suis merde, je prends les clous.
Bon, effectivement,
je le mettais en traitement et salaire et je mettais les Français en micro.
Bah voilà, mais moi je savais pas.
M'avait dit mon comptable avec moi.
Bah voilà, mais je l'ignorais. Donc
le statut d'auteur, il est pas très défini. Peut-être que c'est pas épluché.
Alors non, en fait, c'est parce que
il y a tellement de cas différents que.
Si tu as un problème avec les impôts, ça va dépendre un peu sur qui tu tombes.
Oui.
Mais en général, les impôts, c'est une administration de gens qui sont pas complètement cons. Hein, ils arrivent. Ils voient que t'es pas un mec qui veut les arnaquer, t'es un mec qui sait pas très bien ce qu'il faut
comme
faire.
Ça, c'est flou.
Ils sont compréhensifs. Ouais. Et si t'as fait une connerie parce que l'inspecteur des impôts, là où t'étais avant, il t'avait dit de faire ça, tu expliques et ils vont pas te faire chier en règle générale. Hein.
Et puis l'autre truc, c'est ce que tu disais, ça dépend. C'est parce que notre statut est flou, oui, mais on se raccroche au statut d'auteur de romans, d'œuvres graphiques, etc. Machin. Des bases du droit de l'artiste-auteur au sens plus large. Donc ça, on peut s'appuyer dessus, puisqu'on dit être auteur, tu vois. Donc on s'appuie dessus, donc on ne fait pas n'importe quoi non plus. C'est pas comme si on pouvait faire n'importe quoi parce qu'on n'avait pas de case, si tu veux, c'est ça. Donc non, on s'appuie sur des trucs quand même, des trucs très spécifiques. Donc voilà, c'est tout un imbroglio technique, mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les auteurs vont pas forcément s'en préoccuper. Si t'as jamais eu de jeu publié, ça t'intéresse pas, quoi. Toi, tu veux plus des renseignements sur le processus éditorial, etc. Machin.
Ma question est peut-être bête, mais c'est quoi une BNC ?
BNC, c'est
bénéfices non commerciaux.
D'accord, ok.
Voilà.
Ça veut dire, en fait, tu déclares que sans avoir créé une société, mais en tant que toi-même dans ton coin, tu as fait un bénéfice.
Exactement.
D'accord, ok.
Personne physique. Et c'est non commercial, c'est-à-dire...
Et jusqu'à un certain seuil, je ne sais plus combien, les formalités, c'est le micro et c'est extrêmement simple. Et quand tu as dépassé le seuil du micro, je crois qu'il va à 30 000.
Toi, tu l'as exposé depuis un certain temps.
Mais c'est le jour où j'ai dépassé le seuil du micro que j'ai été obligé d'aller voir un comptable parce que je ne comprenais plus rien.
Et maintenant, c'est une obligation, sinon c'est majoré de 25%. Sinon, tes bénéfices, enfin, tes hauteurs, pour le calcul des impôts, sont majorés de 25%. Ça déconne pas, quoi.
Donc
il faut maintenant saluer être enregistré auprès d'une association de gestion agréée. Enfin, c'est vraiment du racket, mais c'est comme ça. Mais bon, après, c'est plus simple aussi. Après, quand on a un comptable, effectivement, c'est de la dépense.
Un comptable, il faut avoir un certain chiffre de vente, un gros catalogue.
Je suis à Paris chez un cabinet en fait, qui fait une dizaine d'auteurs de jeux différents, dont pas mal. Et donc, il y a une nana en fait, qui s'occupe de tous les auteurs de jeux, donc qui connaît plus ou moins.
Ah ouais, c'est très bien ça. Ouais.
Et puis après ça ne coûte pas forcément non plus, enfin super cher, ça dépend de. Ça coûte des sous, je ne sais pas après. On m'avait dit.
Ça t'économise des sous aussi, parce qu'il te fait des tuyaux, il te fait faire des trucs.
Tu t'optimises fiscalement, on m'avait parlé quelque chose de 500 ou 600 euros à l'année, je ne sais pas si.
Plus que ça.
Plus que ça. Bon voilà, ce serait intéressant, après ça dépendait des cabinets, je sais pas. Puis apparemment elle a l'air spécialiste, donc ça c'est précieux. Faut voir si tu prends un comptable, si c'est parce que tu vois s'il est aussi novice que toi dans le domaine.
Mais c'est plus que précieux, t'as besoin de tout réexpliquer, ce que c'est qu'un auteur, elle est déjà calée, elle a plus qu'à s'occuper de toi. Quoi.
Si t'es en province et que tu vas voir le comptable du coin, bah, il va trois écrivains, il va faire comme pour les écrivains. Et puis c'est. Voilà.
Complètement.
Ce qui n'est pas le pire d'ailleurs.
Non,
mais...
non, ce serait déjà mieux que rien, mais. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire ce PDF-là pour déjà informer les auteurs. Si tu
veux. Ouais, très bien.
Voilà, il faut ça, c'est important. Quoi. Voilà.
C'est quoi comme cabinet ou quoi du coup ?
C'est Émargence.
Émargence.
Cabinet à Paris, c'est où il y a Hervé Marguy qui est chez eux, il y a Philippe Despalières qui est chez eux. Enfin, il y a pas mal d'auteurs qui sont chez eux.
D'ailleurs, on parle du statut d'auteur, mais il y a eu pas mal d'évolutions grâce à toi, non ? Je pense qu'au départ, on t'appelait pas inventeur ou
géotrouve-tout.
Au
non,
début
c'est vrai qu'au début, il y avait moins inventeur. J'ai un peu insisté sur auteur, mais est-ce que ça s'est imposé parce que j'ai un peu insisté ou parce que c'était dans l'air du temps et que c'est venu comme ça. Je veux dire, je suis pas tout seul, hein. On était nombreux. Ouais. C'est vrai que le problème, alors bon, c'est aussi très franco-français parce que les Américains sont moins braqués sur le vocabulaire et ils parlent du designer qui veut dire un peu tout et n'importe quoi, donc il est beaucoup plus vaste. Et puis ils ont pas. Et je dirais, chez les Américains et même chez les Allemands, ça n'a pas le même enjeu de reconnaissance que chez nous. C'est vrai qu'en France, auteur, ça fait bien. Quoi. Mm. Ça fait bien. Et ça nous aide vis-à-vis de la GSA et compagnie aussi. Donc on a tout intérêt, effectivement, à insister pour être auteur et pas inventeur. Mais je pense que ça, maintenant, c'est à peu près acté. Mm.
Mm. Bah, dans le milieu dans le milieu du jeu de société, je dirais un peu core, hobby, oui, ça l'est. Mm. Après, pour le grand public,
c'est vrai qu'on
n'en est pas là. Parce que
c'est pour la même raison qu'il faut insister pour avoir son nom en gros sur la boîte. Ça veut dire, quelque part, justement, qu'on n'est pas seulement un rédacteur de règles.
Mm. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, il y a un volet création de jeu de société au concours Lépine. Mais parce qu'à la base, si tu veux, le jeu de société, ça vient du domaine du jouet, du domaine industriel. Donc la propriété intellectuelle était une propriété industrielle, où on posait des brevets. D'accord ?
Ouais, très bien.
En termes de propriété intellectuelle, il y a vraiment ces deux branches-là, industrielle et littéraire artistique. Mmh. Et à la base, nous, le jeu de société, on a l'industrie du jouet, donc on vient de là.
Et donc, on est en train de passer.
Et on a glissé ces 15 dernières années vers la littérature. Tous les éditeurs ont fait naturellement des contrats de propriété littéraire artistique.
Vers l'œuvre de l'esprit. Quoi.
Mais il faut savoir que cette notion de propriété littéraire artistique, elle est née en Europe. Et ce que disait Bruno, c'est très vrai, c'est pas seulement français, c'est vraiment européen d'instituer ça. C'est vraiment c'est propre à nous. Et donc, c'est pas étonnant que le glissement se fasse plus rapidement et naturellement chez nous.
Ouais. Bah, aux États-Unis, ils font pas la différence. Hein. Aux États-Unis, t'es écrivain, t'es un businessman. Hein. Ouais, et donc, tu fais du bénéfice comme n'importe quelle entreprise. Mmh. Pour eux, c'est pas un truc de spécial, quoi.
Nous, peut-être c'est culturel, on a une façon de mettre en valeur les œuvres de l'esprit, enfin tout ça, on a peut-être une relation aux arts et aux belles lettres, je sais pas, mais c'est comme ça, enfin voilà. Mais...
La France et l'Allemagne, ouais, c'est quand même les pays de littérature, la SACEM, c'est plus vieux qu'on le croit. Hein.
Tiens, en parlant de la SACEM, je vais vous parler d'un petit truc intéressant, parce que justement, je vais changer un peu de sujet là si ça vous embête pas. On a parlé d'un truc avec la SAS, la Société des auteurs de jeux allemands. Où eux, ils sont en train, justement, en Allemagne, de lutter, de faire du lobbying, pour essayer d'inscrire les auteurs de jeux dans un registre national. Vous savez, par exemple, en France, quand une bibliothèque achète un livre, elle le paye plus cher. Parce que le livre, il va être ensuite emprunté par plein de gens, donc c'est potentiellement, ou théoriquement, un livre qui va être acheté par moins de gens. Donc ils payent une taxe en plus, et sur ces taxes-là, après, il y a de l'argent qui est reversé aux éditeurs, aux auteurs de ce livre-là. D'accord ? C'est la même chose quand tu fais ton business commercial avec de la musique. Et la musique ne t'appartient pas, tu payes les droits, à SACEM, etc., qui sont après redistribués aux diffuseurs et aux écrivains, aux compositeurs, etc. Dans le milieu du jeu, ça n'existe pas. Les ludothèques, les bars à jeux, si tu veux, ils achètent des jeux pour faire jouer le public, pour du prêt, ou dans le cas des cafés-jeux, pour soutenir leur business commercial, donner de la plus-value. Ils ne payent pas de taxes du tout. C'est comme ça. Hein. Je ne dis pas que c'est mieux que c'est pas mieux, c'est comme ça. La Société des auteurs de jeux allemands est en train de lutter pour faire inscrire les auteurs de jeux auprès d'une espèce de registre national où il y a déjà les auteurs de livres. Et donc, si tu veux, quand les bibliothèques achèteraient les jeux, ce qui est de plus en plus le cas chez eux, comme chez nous, où les bibliothèques, les médiathèques achètent des jeux de société, deviennent un petit coin ludothèque dans un coin, et bien dans ces cas-là, les auteurs de jeux, ils sont inscrits et il y a ce mécanisme de collecte de taxes qui reviennent après aux auteurs. D'accord ? Chez eux, le taf est déjà fait, c'est-à-dire que ce registre existe déjà. Il y a déjà même des auteurs de jeux de société, parce qu'il y a des éditeurs de livres qui font des jeux de société, un peu comme chez nous, Gallimard en fait parfois, etc., Atier, machin. Voilà. C'est marrant parce que cette question a été évoquée cet été au Flip par le réseau des cafés du DIC. Et eux, ils se sont dit, mais c'est pas normal qu'on paye pas.
Ah, ça vient d'eux.
Ils sont gentils. Ils voudraient. Nous, on voudrait payer de l'argent, quoi. Nous, on croit en la valeur culturelle du jeu de société. Donc, pour le poser comme objet culturel, on voudrait que nous, quand on achète les jeux pour après, puisqu'on en fait la base de notre business commercial, on voudrait que payer une taxe en plus et qu'elle soit redistribuée après aux auteurs. D'accord?
Eh bien, ça s'appelle l'intégrité, c'est bien.
Voilà. Il se trouve que la grosse différence, c'est que, par exemple, en Allemagne, cet organisme qui collecte pour les livres, etc., machin, existe déjà. Et il y a déjà des auteurs de jeux, donc il suffirait de se greffer sur un mécanisme déjà existant. Il n'y a pas besoin de créer une structure à gérer, etc. En France, on n'a pas ça. Donc on a évalué, je connais quelqu'un au conseil d'administration de l'ALF, etc. On a évalué un peu le potentiel... ALF, pardon, l'association des ludothèques françaises de France. Et donc on a évalué la potentialité que ce soit faisable en France, et on a dit que oui, ce serait bien, mais pas tout de suite. Mmh. C'est mort parce qu'en fait, on n'est que à peine quelques dizaines, centaines...
Ça serait très compliqué à mettre en place pour ramasser 3-6.
Exactement, voilà, c'est ça. Alors oui, la portée éthique du truc serait super, mais ce serait une usine à gaz à mettre en place, et rien que les frais de fonctionnement... on ne pourrait pas les payer avec le nombre d'auteurs qui existent. Donc, c'est mort. Mais, bon, après, ce serait peut-être possible si on se greffait un système déjà existant comme ce que font les Allemands, etc. Mais il faut le garder dans un coin, c'est tout. Voilà, c'est pas à exclure. Bon. On n'est pas obligé d'adhérer aux AGSA. C'est-à-dire de s'affilier aux AGSA, si on n'est pas sur le bureau. Nous, la Société des auteurs de jeux, on encourage forcément beaucoup à le faire. Parce que ça a une portée éthique de faire reconnaître l'auteur de jeu comme auteur de l'esprit, etc., c'est sûr. Mais il n'y a aucune obligation. On peut y rester assujetti même quand on dépasse le seuil d'affiliation. Les AGSA vont vous dire le contraire, mais c'est pas vrai. Dans la loi, l'affiliation aux AGSA est une démarche volontaire et personnelle. Donc si vous voulez pas, même si vous dépassez les 8000 euros à l'année, si vous ne voulez pas vous affilier parce que par ailleurs vous êtes salarié, parce que par ailleurs machin, vous cotisez déjà pour votre retraite, vous ne voulez pas dépenser machin en plus, vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord ? Si vous le faites, c'est parce que vous savez en toute connaissance de cause que vous avez gagné, c'est-à-dire en gros vous payez pour la retraite. Un petit peu d'argent quand même. Et puis après ça vous donne une couverture sociale aussi si vous faites d'auteur de jeu votre métier et que vous n'avez pas de couverture sociale par ailleurs, là j'ai ça vous procure la sécu quand même, c'est assez énorme.
Ouais,
ça c'est chouette, voilà.
J'ai cru comprendre dans une discussion récente justement avec ma comptable que pour la retraite en tout cas ça devenait obligatoire.
Alors le payer la retraite une fois que tu es affilié c'est obligatoire.
Non que qu'on va être obligé de s'affilier pour la retraite. Non. Moi, je n'étais pas affilié. Et il m'a dit qu'à partir du 1er janvier, il fallait que je sois affilié pour la retraite.
Ok, c'est intéressant, je regarderai. Voilà. Ça marche.
Oui, j'ai une question. Moi, j'ai une question. C'est pour le cas des fonctionnaires. Je ne suis pas fonctionnaire, mais je sais que les fonctionnaires n'ont pas le droit d'avoir une deuxième activité.
Tu peux tout à fait. Il y a des fonctionnaires parmi vous. Voilà. Ouais, bon, non. Il n'y a aucun problème.
D'accord. Okay. Non, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai un auteur que je connais.
Tu peux te dire. Je suis fonctionnaire et je vais passer par l'édition pour ne pas payer.
Qu'est-ce qu'il veut dire passer ? On passe tous par les sociétés d'édition.
Oui, mais il voulait faire un financement participatif.
Il voulait faire un financement participatif et on lui a dit qu'en tant que fonctionnaire, il n'avait pas le droit de le faire.
Attends, c'est différent.
Je pense que monter un Kickstarter, effectivement, c'est particulier parce qu'on a parfaitement le droit, en tant que fonctionnaire, de toucher des droits d'auteur. Là, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu veux monter une entreprise, et il faut que tu en aies une pour faire un Kickstarter, là, il te faut l'autorisation de ta hiérarchie.
C'est ça. Quand tu demandes la possibilité d'avoir un deuxième métier à côté,
ça va être une question de proportion, de
disponibilité. Si t'es prof, tu demandes à ton proviseur. Hein, ouais. Et à partir où t'es pas en train de monter des cours privés dans la rue d'à côté, il te dira oui. Hein.
Mais en tant que prof, t'es obligé, même si tu fais une colo, de demander l'autorisation.
Voilà, donc on peut. Mais pas pour un Kickstarter.
Ah ouais, c'est important de le savoir.
Mais non, mais c'est important d'en discuter maintenant.
Enseignant, tu ne veux pas créer un jeu contre l'éducation nationale.
Ah bah oui.
En tant qu'enseignant, on
ne
peut pas créer un jeu.
Si, tu peux.
Il l'a fait.
La liberté d'expression, c'est quoi ?
J'en ai un, mais il n'a jamais été publié.
Même Bruno, dans Citadel, il y a une carte qui écrit « L'université, on ne sert à rien ». On ne sait jamais trop à quoi ça a servi.
Non mais, j'avais un jeu qui était destiné à être joué pendant les heures de cours et à foutre le bordel en cours. Il y a une vingtaine d'années, il n'a jamais été publié. Bon, voilà.
Mais non, j'imagine que c'est comme pour un livre. T'as parfaitement le droit de publier un bouquin où tu racontes des conneries sur l'éducation nationale.
Dans un pays de libre expression, enfin, c'est normal.
Je connais une nana qui est prof et qui est tournée dans des films porno, on avait voulu la faire chier. Et non, elle avait le droit.
Ils sont sympas tes copines.
Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à n'importe quoi?
J'ai des questions vraiment basiques.
Vas-y, pardon.
Des démarches, par exemple, voilà, on a son jeu, ouais. On a fait des salons, des machins, ça fonctionne, ça tourne, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire pour passer à l'étape supérieure?
Alors, bon, je vais me permettre d'essayer de donner une réponse parce que je sais pas, peut-être qu'un auteur comme Bruno, avec le temps, il a son réseau, il a.
Ben, oui, ouais, j'ai envie de voir. Pour moi, c'est facile.
C'est ça.
Mais ceci dit, je pense, parce qu'on me pose quand même souvent la question, la réponse, elle est simple, c'est tu traînes sur des endroits comme ici et t'essayes de croiser des éditeurs et de montrer ton machin, tu vois. Voilà. et tu montres ton truc et t'essayes de leur montrer. C'est vrai que c'est plus facile quand on a un nom, mais on est quand même un milieu qui est relativement ouvert. C'est plus facile, je dirais, pour un auteur qui n'a jamais publié de jeu que pour un romancier qui n'a jamais publié de roman. Hein. Donc, tu traînes sur les endroits comme ça. Il y a deux, trois éditeurs. Tu vas sur des salons plus grands, il y en a des plus gros. Tu vas à Cannes. La semaine dernière, j'étais encore chez un gros éditeur. Ils nous présentaient un petit jeu qui vont sortir l'an prochain. Et ils disent, voilà, c'est un petit jeune qu'on a croisé à Cannes qui nous a montré ça. Ça nous a plu, on a signé, point barre. Hein.
Ouais,
donc, c'est pas plus compliqué que ça.
Ouais, ouais. Si je peux me permettre de compléter. Mais déjà, je suis complètement d'accord avec Bruno. Parce que, en fait, pour le coup, bon, le nom, ça aide parce que tu as ton réseau. Mais pour le coup, les éditeurs, ils sont pas du tout regardants sur le nom. Certains sont bankable, c'est cool pour eux. Mais je veux dire... Ils s'en foutent, c'est le jeu qui regarde. Et donc vraiment, on est un milieu super ouvert. Moi, pareil, je comparerais par rapport au milieu d'illustration jeunesse. J'ai déjà fait Montreuil, le salon de Montreuil, avec une illustratrice qui démarchait avec son book. Putain, les mecs, ils étaient fermés de chez fermé. Donc c'est vraiment pas évident. Donc moi, ce que je conseille, c'est moi le démarchage par mail. Si je veux être très concret,
ça sert
j'ai arrêté. C'est naze. Ça m'énerve.
Ça va.
Voilà, concrètement.
J'ai essayé d'envoyer un mail à Yellow. Voilà, par exemple.
Oh, ouais, non,
concrètement, le démarchage par mail, j'ai arrêté. Ça me sert à rien. Déjà parce que tu t'angoisses. Enfin, tu t'angoisses pas, mais t'attends des réponses parce que les gens sont très occupés.
En fait,
le temps qu'ils ouvrent ton mail, c'est chiant. Voilà. En plus, t'envoies quoi dans le mail? T'envoies un pitch et peut-être ta règle au mieux. Bon, super. Bon, ça. En quoi ça donne une bonne idée? Le mec, il va être fatigué ce jour-là. Il va pas comprendre bien. Et puis, ça donne pas. Tu lis une règle. Des fois, tu peux te faire une idée. Voilà. Mais des fois, un truc en plus si tu l'as pas vu, bah, c'est un peu
voilà.
Moi, ce que je conseille et ce que je fais moi-même, je fais, à part des petits salons comme ça que je fais pour d'autres raisons, je vais surtout à Cannes et à Essen. J'irai bien à Nuremberg aussi en plus, mais j'ai pas assez de proto l'année pour que ça valorise le déplacement pour moi. Mais je sais qu'il y en a plein, Roberto, tout ça, ils vont à Nuremberg aussi. Enfin voilà. Donc, moi, je conseille de faire des gros salons comme cela.
Et pour s'inscrire, par exemple, à Cannes, n'importe qui peut s'inscrire.
Mais il n'y a pas d'inscription, en fait. Il n'y a pas d'inscription.
Non, on y va, d'accord.
Pour
un
visiteur. Ouais, okay. Simplement, alors, il y a le off d'une part. Bon, c'est, alors, par contre, ce qu'il faut faire, c'est, genre, ce que je conseille, c'est 3 semaines à mois avant le festival, tu as ciblé tous les éditeurs avec qui tu voulais avoir des rendez-vous, à qui tu veux proposer ton jeu. Tu leur envoies un mail en disant bonjour, j'ai un jeu qui pourrait, je pense, coller dans votre ligne éditoriale. Et est-ce qu'il y aura moyen qu'on se voit à Cannes? Voilà. Si t'as déjà eu un jeu ou deux jeux publiés, tu dis voilà, je suis l'auteur de machin, parce que dans ces cas-là, il y en a après, ils demandent un pas de blanche, puis ils se disent ah merde, j'ai pas envie qu'ils reviennent avec un jeu sur la numérologie, un mix entre Monopoly et sur Maintenant. Donc pour juste un peu dégraisser à l'entrée, s'ils voient que t'as un ou deux jeux publiés, ils disent lui ça va, c'est pas un jeu de parcours avec des questions. Quoi. Et donc dans ces cas-là, tu demandes un rendez-vous, et généralement ils te les donnent, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi te pointer et dire est-ce qu'il y aura un moment dans le festival où il y aura un dispo. Il y a de fortes chances pour qu'ils disent oui, mais après ils sont parfois occupés, etc.
Donc des fois, en amont,
c'est plus difficile. Ouais. C'est plus sûr de le faire en amont.
Nous, appel pour le nouveau proto de marque. J'ai juste envoyé un mail à Mathilde de Gigami qui m'a dit ouais, là j'ai un créneau de 11h à machin. Ouais. On était à appel, on lui a fait la démo du jeu une demi-heure. Après, on a été voir Geek Attitude où on avait pareil un proto à montrer. Les mails servent plus en fait à convenir d'un rendez-vous pour se voir en vrai, quoi.
D'accord. Les assez gros éditeurs, ils ont tous un mec, deux mecs, voire plus hein, sur le salon qui ont un rendez-vous toutes les demi-heures.
Yellow par exemple, ils ont même c'est vu par mail, ils t'envoient un lien vers un formulaire si tu veux.
Ouais, je l'ai fait ça. Ouais.
Et ben voilà, et ben c'est d'autant plus simple, tu choisis ton créneau et tout. Ouais. Moi au dernier salon de scène, j'avais des rendez-vous toutes les heures sur les 4 jours.
C'est un milieu où les gens se voient, ça se passe en humain, ça se passe pas trop par mail. Les mails servent à caler le rendez-vous, mais les gens ont besoin d'un contact réel dans le jeu encore. Et c'est bien, je trouve.
C'est bien parce qu'une fois que tu arrives au rendez-vous, bah là, tu as ton proto. Moi, ça sert à rien de ramener avec 5-6 protos dans l'espoir de les laisser aux éditeurs.
Ouais.
Tu sais pas qui va être intéressé, surtout tu les auras fait pour rien, c'est absurde. Tu t'en ramènes qu'un seul. et tu vois ceux que ça intéresse, tu notes le nom. Et puis tu leur dis, bah, je vous envoie ça dès que je reviens. Et limite, s'il y en a un qui t'intéresse beaucoup, tu dis, bah, je te le laisse en partant. Tu vois. Mais donc après, bah, tu comme
faut...
ça, tu.
Ah oui, c'est ça.
Vas-y.
Il faut avoir fait plusieurs protos.
Non, non, justement.
Moi, je fonctionne différemment. Moi, j'en fais plusieurs. Oui. Moi, en général, j'en fais 4 ou 5 de chaque jeu. Mais par contre, si vous avez vu mes protos, c'est des trucs extrêmement rustiques. Hein. C'est imprimé sur du Bristol et découpé avec des ciseaux et avec 3 clipards qui se courent après. Hein. Donc, c'est vraiment des trucs. Faire un proto, une fois que j'ai les fichiers, ça me demande une demi-heure. Hein. Et j'en fais comme ça, j'en fais un certain nombre. Et les éditeurs qui ont l'air vraiment intéressés, je leur laisse. Alors le truc après, c'est qu'il faut noter soigneusement qui a pris quoi pour une fois que t'en as vendu un, capable de dire à ton... Non, celui-là, ça va, il est vendu, parce que sinon, t'as des... sinon c'est un peu chiant, ça m'est arrivé.
J'ai une liste de suivi comme ça, avec tous les éditeurs. Tel proto, il est chez un tel. Et bah, après, tu dis, tu t'enlèves ceux au fur et à mesure qu'ils te disent non, puis à un moment, il y en a qui te disent oui, du coup, il faut que tu t'envoies un mail à tous ceux qui leur disent non, c'est plus la peine, machin. Et c'est un suivi, mais après, bah, c'est... Enfin, quand on est là...
Faire,
moi je le faisais pas jusqu'à un certain moment, puis au bout d'un moment tu t'y perds et du coup je suis obligé de le faire maintenant. Mais c'est, quand on est là, ça veut dire que t'es pas en termes de pas en démarche de professionnalisation, mais un peu quand même.
Moi je pense que c'est important. C'est important d'avoir des protos que tu te fais pas chier à les fabriquer, qui soient extrêmement rustiques. Les éditeurs n'aiment pas quand tu leur montres un truc qui est trop joli avec des super dessins et des trucs en 3D et machin, parce que quelque part ils arrivent pas à se projeter, à imaginer ce qu'ils peuvent en faire. Et donc, pour moi, un proto, ça doit être, je dirais, presque on va dire, c'est en noir et blanc. Quoi.
Et ça ne bloque pas justement l'immersion de ne pas avoir un proto bien chiadé.
Mais non, si tu as un proto trop chiadé, l'éditeur, il va pas. L'éditeur, c'est lui qui va trouver, qui va décider qui fait les graphismes, le style, il peut changer des trucs, etc. Un truc trop chiadé, il a du mal à en imaginer autre chose.
Le festival, je pense que pour le public.
Oui, après, c'est bien sûr, mais. Non, moi, à l'inverse, si tu veux, moi, par exemple, je ne vais pas être du tout d'accord avec Bruno, mais je suis d'accord avec lui dans le sens où il a raison. Parce que, effectivement, les éditeurs sont tout à fait capables de se projeter, ça leur laisse la latitude, l'espace pour se projeter éditorialement et tout, c'est très bien. Moi, je suis graphiste de métier, je ne peux pas faire ça. J'y arrive pas. Je suis désolé, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, sous Photoshop, je sais que je peux mettre un joli truc, faire machin, un travail. À l'œil, je ne peux
plaisir.
Pas faire un
moi,
truc. Je suis obligé de. C'est devenu naturel. Donc, j'y trouve du coup d'autres avantages. C'est qu'au contraire, je montre qu'il y a moyen d'envoyer du rêve avec un thème, avec quelque chose, machin. Après, si l'éditeur a toujours cette capacité à se projeter, il verra qu'il n'y a pas de souci à changer le thème, etc. Mais si y a une belle cohérence mécanique thématique et que tu as fait l'effort de jusque dans le matériel mettre des illustrations, des trucs, machin, de faire les bonnes cartes comme il faut, moi je pense que ça peut avoir ses qualités. Mais c'est perso et c'est vraiment parce que moi j'ai pris le réflexe moi je peux pas faire un truc en noir et blanc, j'y arrive pas. Donc moi j'y trouve des qualités, mais il a raison.
Les deux fonctionnent, de toute façon.
Les deux marchent, voilà.
Mathieu, t'as une petite question?
Ouais, moi je suis pas du tout. J'ai pas de jeu qui a édité. Et j'ai pris le parti de me dire. Non mais j'ai pris le parti de me dire de toute façon même si je suis jamais édité, j'ai envie qu'un jeu il soit fini.
Ah oui.
Donc j'ai payé un pote qui est graphiste comme toi. Et le jeu il est fini et je me dis bah même s'il est jamais édité, j'ai un truc qui est terminé et que voilà. C'est mon plaisir.
Satisfaction personnelle.
Je suis allé au bout de mon projet, et ça marchera pas. Et la question que j'avais, non, c'était par rapport à ça sinon.
C'était pour revenir sur ce qu'on disait, sur vraiment le démarchage d'éditeurs. Il y a aussi les concours qui peuvent servir à ça. Moi, notamment, Boulogne m'a beaucoup servi parce que quand tu démarches un éditeur en disant que tu as été finaliste à Boulogne ou quoi que ce soit, c'est vrai que tu as un accueil aussi différent que si tu es un illustre inconnu.
Ouais. Boulogne, c'est la range des concours, c'est le meilleur.
Ouais, alors, faut au moins atteindre le stade de finaliste, donc d'aller dans les 10 premiers. Mais sur la cérémonie, sur la finale, t'as beaucoup d'éditeurs qui sont présents, qui testent les jeux aussi, quoi.
Sur les deux jeux de marque qui ont été en finale de Boulogne, il y en a un qui a été signé, l'autre Mathilde Gigami qui l'a reçu d'autant plus facile. Parce que ça a aidé qu'elle soit une carte finaliste aussi.
Ce qu'il faut voir, alors là, vu qu'on parle de Boulogne, il faut savoir qu'ils font un gros boulot là-dessus. Le concours est payant, mais ils font un gros boulot, c'est-à-dire que les 10 finalistes, évidemment, il faut être finaliste, mais. Les 10 finalistes, ils bénéficient d'une présentation en amont privée aux éditeurs qui sont partenaires de CNG, ça représente pas mal, c'est Asmodee, Gigamix, Space Cowboys, Yellow, tout le monde. Et tout le monde vient tester les prototypes la semaine d'avant la remise des concours, et ils connaissent pas les noms des auteurs, ils viennent juste tester les protos de manière anonyme, ils savent pas qui est finaliste puisque la remise n'a pas encore été faite, les jurys n'ont pas testé le jeu, ils voient des 10 finalistes au même niveau, Et déjà en amont, quelques jours avant d'aller à la cérémonie, avant tu sais, bah, le CNJ t'envoie un mot en disant il y a tel éditeur qui veulent être mis en relation avec toi. Est-ce que ça t'intéresse? Donc ça, c'est hyper précieux, vraiment. Moi, les deux jeux qui ont gagné Boulogne que j'ai eu, ils ont été signés suite grâce à ça, quoi. C'est évident.
Aussi, c'est que sur les festivals, t'as des jeux qui sont plus faciles à présenter que d'autres. Si tu présentes du petit party game, etc., c'est facile de prendre un quart d'heure à un éditeur. Si tu fais un jeu d'une heure ou quoi que ce soit, avec une mise en place un peu longue, bah, tu débarques sur le stand le temps que tu sors ton matériel, etc. T'as aussi des jeux qui sont plus compliqués à présenter au festival.
T'avais une question ?
Ouais, moi c'est pour bifurquer un peu. Est-ce qu'il existe au sein de la société des auteurs de jeux un organigramme de tous les éditeurs et de leur ligne éditoriale? Est-ce que ça,
non, ce truc là,
c'est une super question, parce que j'allais en parler du ciblage éditeur,
et il y en aura pas. Que ça peut difficilement exister parce que ça change tout le temps.
Ça bouge tout le temps. Alors, et même juste savoir qui appartient à qui, quelles sont les sous-sociétés.
Non, alors pas facile.
Tout le monde appartient à ce monde.
Je veux voir ça parce que nous,
ouais, alors je vais te répondre
la gamme à peu près.
Oui, en tant que joueur,
ne pas se tromper d'éditeur sur ton jeu, c'est important.
Je suis désolé, mais là, pour te répondre...
Ils m'ont dit, bah, c'est pas dans la gamme qu'on cherche pour l'instant.
Non, moi, je te réponds très clairement et très, très simplement. Non, il n'y en aura pas, pour les raisons qu'a invoqué Bruno, parce que ça change tout le temps et que voilà, il y a des nouveaux éditeurs tout le temps, qu'effectivement, les éditeurs, parfois, changent leur ligne ou cherchent d'autres choses, etc. Et parce qu'on part du principe aussi que ça fait partie d'un travail de veille professionnelle qui incombe vraiment à l'auteur. Je veux dire, au bout d'un moment, si tu es en voie de professionnalisation ou de recherche pour faire un, c'est un travail que tu dois et peux faire tout seul. Tu vois ? Donc, vas-y,
Et dans ce cas-là, comment est-ce que je peux me renseigner sur les réseaux de distribution qui existent? C'est pareil, tu vas me faire la même réponse.
Attends, ça, là, il n'y a pas de. La distribution, c'est pas pareil.
Mais comment tu peux savoir, là, en tant qu'auteur qui a son petit proto, tel éditeur, il distribue sur tant de magasins, tel éditeur, il distribue sur tant de magasins?
On ne peut pas avoir ces chiffres. On pourra pas. C'est pas possible d'avoir ces chiffres-là. Tu le sais à peu près en gros. Tu sais que Gigamic ou Yellow ou d'autres, ou tous les éditeurs distributeurs ont une grosse force de frappe au point de vue distribution et qu'il est édité chez eux, c'est chouette parce que ton jeu, il sera bien ventilé, alors qu'un tout petit éditeur machin qui est pas connu, il sera forcément moins bien distribué, c'est évident. Donc c'est bien de le savoir quand tu as plusieurs propositions, de connaître. Va voir ton boutiquier et demande-lui, parce que eux ils savent qui est distribué par qui, ils le savent.
Ma question derrière, c'est est-ce que c'est une entreprise à part ou est-ce que c'est l'édition qui s'occupe aussi de la distribution?
Ah non, c'est deux ans, ça dépend.
Il y en a qui font les deux.
Ouais, ça dépend.
C'est ça, tu vois.
Yellow font les deux.
Tu redonnes à quelqu'un d'autre.
C'est toujours mieux. Il y a quelques gros, ce qu'on disait, t'as Gigamic, Yellow, plus ou moins Asmodée, qui sont éditeurs et distributeurs. C'est toujours bien d'être chez eux, parce que c'est évident que quand tu distribues tes trucs et d'autres, c'est les tiens que tu vas distribuer un peu mieux. Bon, après, il y a aussi des petits indépendants qui sont très bien. Asmodée, ils ont des studios aussi, c'est un espèce de truc un peu intermédiaire. Est-ce que c'est indépendant ou pas? C'est un peu, ça dépend par où tu le prends. Bon, voilà, c'est assez compliqué. Hein. Et puis, tu as plein de petits éditeurs qui se font distribuer, qui peuvent même changer de distributeur à l'occasion. Il y a, j'en ai marre d'être avec machin, je passe avec Bidu. Hein.
Ça se fait souvent. Ça arrive souvent,
Il y a, ça se restructure, ça bouge vachement vite.
Ils ont les mêmes lieux d'arrivée, ils ont les mêmes spots.
Ils ont les mêmes boutiques.
C'est les jeux, plus ou moins, voilà. Sauf je mets la grande distribution à côté, mais c'est
entre les deux, il y a autre chose. Il y a les GSS, les grandes surfaces spécialisées, comme la Grande Récré, Toys R Us, Cultura, la Fnac, etc., qui de plus en plus ont des rayons jeux de société. Et qui, du coup, effectivement, il y a certains éditeurs, certains distributeurs, ou voire éditeurs, enfin bref, ou les deux, bref, qui ont un pied là-dedans, d'autres non. Tu vois? Donc c'est intéressant de savoir que si ton éditeur ou ton distributeur il a déjà un pied là-dedans, que potentiellement ton jeu va s'y retrouver, c'est chouette, c'est cool. Mais tout ça, c'est un truc que tu peux savoir tout seul, c'est-à-dire pour connaître le qui est chez qui et combien, et est-ce que c'est gros ou petit.
Et tu regardes qui y a.
Exactement. C'est pas plus compliqué. Et sinon t'en parles avec ton boutiquier. Tu vas à la boutique de jeu la plus proche, lui il sait tout ça parce qu'il est en relation avec les commerciaux de tous les distributeurs, il connaît les éditeurs, les distributeurs, leurs relations, il les connaît. Et il pourra t'indiquer s'ils sont plus ou moins gros, leur force de frappe, etc. Tout ce qui est international, après, c'est plus compliqué, mais ça, après... Voilà, quoi.
Tu vas à la Fnac, t'achètes un DVD de la copine à Bruno, et après, tu regardes ce qu'il y a comme jeu de société.
En rayon éducation nationale, c'est ça.
Mais en plus, ça, je dis une bêtise, parce que, comme je disais, j'ai le choix entre deux éditeurs, comme il y en a un qui était chez Novalis, j'ai privilégié celui qui était chez Novalis. En fait.
Ça dépend. Alors là, franchement, tout... À chaque fois, c'est différent. Il y a vraiment des fois, t'as les propositions d'un gros et puis d'un petit. et puis tu vois que le gros, tu comptes plus rien, le type il est pas réactif, et tu sais, ouais, et alors que le petit il est hyper enthousiaste, tu sens qu'il va porter ton jeu, etc.
Une structure, tu dis, c'est pas embouteillé, mon jeu il est là, il va avoir le temps de le bosser.
Ça veut rien dire,
c'est pas évident. Hein, ça.
L'humain, je pense, ouais. Contact avec la personne.
Et puis t'as le mec bêtement, même tu vas chez un gros, alors effectivement c'est mieux si t'es un jeu direct de chez eux, mais même t'as un truc à côté, bah, il se trouve que t'as le commercial qui va craquer sur ton truc et le pousser un peu ou pas, et c'est même pas nécessairement des trucs calculés, hein. C'est, ça va se passer comme ça, hein. Tu peux pas prévoir.
Alors après, c'est évident que par contre, il y a quand même des.
Il y a quand même, enfin moi, pour mitiger ça, pour moi, il y a quand même deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a quand même la cour des entre guillemets grands, ça va pas plaire à certains, mais pour moi, il y a quand même ceux qui ventilent, c'est-à-dire que quand un jeu se vend mal, c'est 15 000 exemplaires. Gigamic, Asmodee, Yellow, machin, d'autres comme ça. Blue Orange, quand un jeu se vend mal, c'est 15 000 exemplaires, bah, toi, t'es content quand t'en vends 15 000, toi. Un petit éditeur, comme tous les petits, on parlait de il y a plein d'émergents, Gag, Blam, Catch-up, etc., Funky Ship, enfin, je pourrais en citer plein, j'en oublie sans doute Rune, enfin, voilà, des relativement petits éditeurs, hein, tu te vexes pas si on dit ça. Bon. Eh ben, tu remarques qu'ils font des tirages entre 3 et 5 000 exemplaires, et qu'il y a souvent une espèce de mur de verre de distribution internationale qu'ils ont beaucoup de mal à franchir. Et évidemment, si tu signes ton jeu chez un gros éditeur distributeur qui lui fait du 15 000, qui a un réseau commercial qui ventile sur toute l'Europe, voire les US, ça compte quand même. Tu vois, c'est faut le savoir. Voilà, faut prendre ça aussi en compte. Il y a vraiment quand même, voilà, on a raison de dire. Enfin, moi, je pense, on a raison de dire, faut pas se fermer, faut pas avoir peur de bosser avec des petits parce qu'ils portent des projets éditorialement super bien. Ils ont la foi, ils ont machin, machin. Et tu vas pas être parce que souvent chez des gros. Moi, j'ai deux jeux signés chez Amigo. Je signe le jeu chez eux. 3 mois plus tard, t'as un mail. 6 mois plus tard, t'as la couve. 7 mois plus tard, t'as le jeu. T'as pas été consulté de rien. Ils ont fait des choix de merde. Enfin, c'est voilà.
Les éditeurs ont moins de projets, donc ils vont peut-être se focaliser plus sur le nombre de projets.
C'est ça, ouais, exactement. Et ton jeu sera mieux mis en avant, et du coup, il aura plus de chances peut-être d'avoir une meilleure vie après en boutique parce qu'il aura été. Bah ouais.
Parce que les petits peuvent aussi conserver des trucs plus longtemps, alors qu'un gros. Ils vont faire un gros coup sur un jeu, ils vont t'en vendre 20 000 la première année, puis après, oh, on a vendu que 20 000, c'est pas terrible, on arrête.
Ouais. Ça, c'est important aussi, ouais. Parce que Marc, en festival, je voyais que ce jeu. Toi, tu voyais que Crois et BlackRock le travaillaient quand même encore plusieurs années après, quoi. C'est vrai que c'est important, quoi.
On les quittons, ouais. Moi, je pense que j'ai un petit jeu que, parmi les jeux que j'ai publiés, c'est un de ceux que je préfère, qui est Wakatanka. Qui est chez un tout petit éditeur de rien du tout, je ne sais même pas exactement combien ils en ont vendu, mais le jeu il est sorti il y a 5-6 ans et il continue à le pousser, à faire tourner sur les salons et ça me fait plaisir. Mmh. Voilà. Même si c'est vrai que ça ne m'a pas rapporté grand chose. Donc c'est.
Ça c'est un truc aussi.
Dans 10 ans, il sera encore là.
Ah ouais. Ça c'est précieux parce que effectivement, là, on est dans une. Enfin, on va pas refaire le laïus sur il y a de plus en plus de sorties, plus en plus d'éditeurs, etc. Mais. Un éditeur, s'il voit qu'un jeu il matche pas, il trouve pas son public tout de suite, il va pas le porter pour insister. Mmh. Il aura été persuadé en son temps que le jeu était excellent et qu'il méritait, suffisamment pour l'éditer en tout cas. Mais si il a loupé sa fenêtre et qu'il fait pas son chiffre et qu'il fait pas un gros buzz ou je sais pas quoi, bref, s'il trouve pas son public de manière conséquente, eh ben il va arrêter le porter, puis il va essayer tout de suite un autre et pour en sortir un, deux, trois différents chaque année. Regarde l'exemple par exemple de Bananagrams. Tu vois, Mixmo, enfin l'équivalent de Mixmo. C'est une petite nana à l'américaine, en Amérique d'ailleurs, qui a fait ça. Elle a sorti son jeu depuis sa cuisine. Bon, c'est un peu la story à l'américaine de la machin. Mais elle a fait son jeu. Elle a vendu les premiers jeux comme ça. Et l'argent qu'elle a reçu, elle l'a pas utilisé pour faire un deuxième jeu différent. Non. Elle l'a bossé sur le packaging du jeu, faire un nouveau tirage meilleur. L'argent qu'elle a reçu, elle a pas fait un autre jeu. Non, non. Elle l'a bossé sur la mise en place du jeu, la communication. Elle a porté son produit. Elle a porté le jeu des années durant. Et c'est un succès mondial. Donc je veux dire, voilà, c'est porter le jeu au-delà du temps, c'est aussi. Je veux dire, on se désole que les jeux n'arrivent plus à s'installer, mais pour ça, il faut les porter correctement. Et les éditeurs qui le font, ben il y en a plus beaucoup. Et comme dit, les petits, c'est peut-être plus que les gros, parce que même les petits, tout le monde, plus personne le fait. De toute façon, j'ai l'impression. C'est à moins que, je veux dire, il ait trouvé son public tout de suite. Et dans ces cas-là, on dit ah bah oui, lui c'est un long seller, on va le pousser. Mais sinon, non, les gens le font plus. Voilà quoi.
Best-seller, ils vont tout de suite. Et le long
seller. Best-seller, c'est les deux, ce qu'ils ont tout de suite et longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Concrètement, si vous avez des échéances par rapport au projet que vous menez actuellement, vous savez quand les choses vont aboutir à peu près ?
Alors, le PDF sur Déclarer ses droits d'auteur pour les nuls, d'ici fin décembre, il va être prêt. Oui, non, mais là, on a déjà bien avancé. Je bosse étroitement avec le comptable et tout. On avance bien. Et là, je suis confiant, on va tenir les délais, c'est cool. D'ici fin décembre, il sera publié, c'est certain. Après, ce sera une version bêta, enfin, une version 1.0, dans le sens où on sera preneur des retours des gens. Le truc, il va évoluer, on en mettra des nouvelles versions au fur et à mesure, etc. Mais la première version, d'ici fin décembre, elle sera publiée, je m'y engage, c'est sûr. Ensuite, la consultation. En fait, le dossier, ça a l'air plus épineux que ce qu'on pensait. Donc, on est en train de rebosser le questionnaire, etc. Mais il y a des chances pour qu'elle soit... le temps qu'on trouve la façon en amont de traiter les données, de à qui s'adresser, de comment les collecter. Il y a pas mal de solutions techniques par rapport au site Internet, faire des formulaires adéquats, etc. machin, pour qu'après, les données soient facilement extractibles. Enfin, qu'on puisse les extraire facilement. Pour ça, donc ça demande beaucoup plus de boulot que ce qu'on pensait si on veut le faire correctement. Donc à mon avis, on pourra le faire qu'en milieu d'année prochaine. Et du coup, bah le truc, c'est qu'il va falloir qu'on laisse la fenêtre de tir pour répondre assez large. Moi, je pensais 3 mois. Même dans le CA, il y en a qui disent 6 mois, 1 an. C'est encore en discussion. On va voir. Du coup, tu vois, ça risque de prendre un certain temps, ce qui fait que le rapport lui-même, bah, il sera publié que pas avant 1 an et demi, facile. Et c'est ce qui me pousse à dire que on va. Au début, je voulais attendre qu'on ait fini la consultation pour aller démarcher les institutions. En fait, non. Je vais produire un autre document qui va essayer de présenter le métier d'auteur de jeu et le valoriser d'une autre manière. Et ça, ce sera produit par ailleurs. Et ce sera utile en son temps, de toute façon, parce qu'il faut le faire. Mais on va essayer de démarcher les institutions avant. Voilà. C'est pour les projets, les deux gros projets qu'on a là. Voilà. C'est ça. Parce qu'après, démarcher les AGC et le ministère de la Culture, ça, c'est du long terme. Il n'y a pas de date. Ça va dépendre. On a des sous-marins des sous-marins, des types, des auteurs de jeux qui eux-mêmes sont dans des ministères ou des trucs, qui nous disent moi je connais un mec qui, et qui ont essayé d'envoyer des mails et qui machin. Alors on essaie de passer par les voies détournées pour essayer de, voilà, de faire bosser le réseau un peu, mais ça donne rien, ou c'est long, ou voilà, donc c'est pas évident. Là, c'est un truc, on peut absolument pas donner des chances du tout, quoi. C'est très difficile.
Peut-être pas, et qu'on peut citer comme exemple. À Essen, il y a
Nous allons
à Essen, le gros stand des éditeurs coréens. C'est le ministère de la Culture qui aura payé. C'est le ministère de la Culture coréen pour encourager les créations à l'étranger.
C'est magnifique. C'est beau. Ouais. Pas si seulement.
Le jeu, on peut dire que vous voyez, les Coréens, ils sont modernes.
C'est intéressant de le savoir. Ouais. Clairement.
Le jeu en Corée, c'est une institution.
Bah oui, mais c'est bien. C'est bien.
Même une société.
Mais c'est très très bien. Là, quand je vois, on a un seul député qui est plutôt. Enfin, à ce qu'on sait, en tout cas, il a fait un peu parler lui dans la presse, qui est plus ou moins geek, puisqu'il a eu l'audace de parler d'e-sport et d'Overwatch à l'Assemblée nationale.
Oui.
Et je pensais, moi, naïvement, une fois qu'on aura ce document, lui envoyer un mail. Après tout, il faut faire feu de tout bois.
Ah oui, t'as raison.
Et on le fera sans doute. Mais du coup, c'est ce genre de bonhomme qui pourrait, après, lui, pousser notre cause à nous.
Mais
parce qu'entre l'e-sport et le jeu vidéo et le jeu de société, c'est sympathisant. Hein. Alors, il y a un député, il y a une 10-15 d'années, qui avait justement posé, je sais plus, Bruno, si tu t'en souviens, mais l'autre Bruno m'en avait parlé, parce qu'à l'époque. Voilà. Moi, je sais pas trop, je sais par rumeur, donc je vais raconter l'histoire, mais c'est l'histoire de l'histoire de l'histoire. En gros, il y a un député qui a donc posé la question, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il a obtenu comme réponse, bah non, vous aurez pas de statut parce que vous êtes des rédacteurs de machines à laver, de manuels de machines à laver. D'accord? Mais en gros, il y a un député qui avait été jusqu'à l'Assemblée poser la question de notre statut. Et ça s'est fait il y a 15 de mémoire. Voilà. Et Bruno Catala était là à l'époque, Roberto aussi. Eux pourraient en parler de manière plus détaillée que moi parce qu'ils s'en souviennent encore. Mieux, parce que moi, j'ai eu l'histoire de seconde main. Et donc, ça a été fait une première fois. Et je ne sais plus pourquoi. Encore une fois, Roberto ou Bruno en parlerait mieux que moi. Mais on était tombés apparemment en même temps que les fouteux sur une question de statut fiscal. Et les fouteux, à l'époque, il y avait une histoire de corruption, je ne sais pas quoi à l'époque. Et ils avaient dit non, il n'y a pas moyen que ça passe, je ne sais pas quoi. Et du coup, on était tapés dans le filet. Ah non, eux aussi d'ailleurs, même pas en rêve. Voilà. Vraiment, j'encourage le terrain. C'est-à-dire, aller sur notre site internet, c'est super, mais c'est pas là qu'on mettra du contenu. Il faut aller rencontrer les gens. Il faut aller dans les bars à jeux, rencontrer les collectifs d'auteurs. C'est l'humain, c'est le réseau qui va. Moi, on encourage ça. Dès qu'un auteur m'écrit un mail à la SAGE, sur le mail de la SAGE, en me disant machin, je lui dis, va rencontrer près de chez toi d'autres auteurs, des bars à jeux, des trucs. Va nouer des relations, c'est comme ça que ça va le mieux marcher possible. Il y a des tas d'infos qu'on ne peut pas mettre sur notre site internet. Tu vois, là, encore, on a nommé quelques éditeurs distributeurs, mais autour d'un café ou d'une bière dans un bar, tu vas pouvoir être vachement plus nominatif et parler peut-être un peu plus de pourcentage, de sous, etc. Et du coup, tu sauras plus à quoi t'attendre. Donc, il faut aller rencontrer d'autres auteurs. Il y a des collectifs, à moins d'être dans un désert ludique, et il y en a, je connais, qui sont désœuvrés, qui sont bien tristes. le pauvre Philippe Tapie-Moquette, Galois, là, il est dans un endroit où il n'y a pas d'autres auteurs, il n'y a pas de collectif, oui, il est dégoûté.
Ouais, j'ai vu, il cherche.
Le pauvre vieux, franchement, j'ai de la peine pour lui. Je ne sais plus, il est dans le centre de la France, mais le pauvre vieux, il n'y a aucun auteur ni collectif autour de chez lui dans un rayon de 150 bornes. Il est là, je suis désespéré. On ne pourra jamais faire le soutien personnalisé. C'est-à-dire, tu t'envoies un mail au mail de la Sage, on va te répondre un peu, mais je te dirais toujours, va rencontrer les gens. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça que tu as des infos, c'est comme ça que tu vas connaître le milieu, rencontrer des gens et tout, c'est toujours plus profitable.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est par l'humain, quoi, plus que sur notre site. Voilà.
Tout à fait.
Est-ce que ça vous a paru profitable comme petite réunion?
Complètement.
Ouais, c'était cool.
Carrément.
Super.